Bonsoir, la pub TV, toujours sexy. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le CSA, il y a quelques mois, dans une étude, avec des femmes objets du désir, voire des potiches. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Et si tout ça changeait, justement? Les grands annonceurs français, les grandes marques françaises s'engagent à combattre les stéréotypes, et même au-delà, justement, à faire une pub davantage responsable, moins intrusive, accessible à tous. Tiens, est-ce que vous connaissez des clips hein, sous-titrés? Non. Beaucoup de défiance. Hein, et le phénomène des adblocks, évidemment, on est un témoignage. Alors, est-ce qu'on va aimer davantage la pub? Aimer à nouveau la pub, justement. Est-ce que la pub a changé de visage en 2018? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, la pub à la une des décodeurs de l'écho sur BFM Business, à suivre également sur Twitter, sur notre page Facebook. On va en parler avec des acteurs, des experts justement de ce petit monde, toujours sympathique quand même, on aime la pub malgré tout. Invité exceptionnel, Stéphane Lorque, le président de la Fédération Mondiale des Annonceurs, la WFA, qui regroupe, qui représente les 60 plus gros marchés mondiaux de la pub. Les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Europe, bien entendu. Avec nous, eh bien, Claire Dorland-Clauzel, c'est la directrice des marques de Michelin, Jean-Luc Chétrit, le directeur général de l'UDA, l'Union des annonceurs en France, et qui va présenter demain 15 engagements pour faire changer la publicité. Virginie Sassoon, elle est responsable du laboratoire du CLEMI, le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Et puis Hervé Brossard est avec nous également, c'est le président d'Omnicom Media Group. Alors tiens, Jean-Luc Chétrit, justement, puisque vous êtes à l'initiative de cette opération donc demain dans les locaux de Twitter, et c'est pas innocent justement que ça soit chez Twitter, parce que c'est vrai qu'il y a une caisse de résonance des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un rejet de la pub, on en avait parlé ici, une pub trop intrusive, au travers de spam, des collègues de data, et apparemment donc ces stéréotypes de type sexiste, mais pas que justement. Il faut corriger le tir?
Alors, il y a nombreux sujets qui nécessitent notre attention et qui ont mobilisé les annonceurs de l'UDA pour ce programme. C'est, de manière plus générale, ce que nous appelons recréer les conditions de la confiance entre le public et les marques. C'est pas que cette confiance n'existe pas, c'est qu'elle a besoin dans un univers, on évoquait Twitter, c'est pas un hasard, la transformation de la communication par son individualisation, par son immédiateté, par de nouveaux formats publicitaires, change la relation entre les marques et leur public. Et il faut réinventer un discours, il faut réinventer un langage publicitaire qui corresponde aux outils d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai des sujets de format publicitaire, de contenu publicitaire, mais c'est vrai aussi, et il y a une attente qui monte, on le voit bien dans les sujets d'actualité, on aura l'occasion d'en reparler, on attend des marques plus de transparence, ouais, plus de responsabilité, ouais, encore, être le reflet de la société, mais un reflet, alors c'est beaucoup leur demander, c'est d'être le reflet d'une société idéale, et donc il faut qu'elle montre plus la diversité de la société, et la publicité doit jouer son rôle de ce point de vue. C'est pour ça qu'on lance en effet ce programme.
On va voir justement quels sont ces 15 engagements dans un instant. Stéphane Lorque, vous qui représentez justement cette Fédération mondiale des annonceurs, est-ce que c'est un phénomène qui est commun à l'ensemble de la planète ou pas?
Oui, le phénomène est commun à l'ensemble de la planète, mais avec des nuances néanmoins. Donc les grands enjeux en termes de responsabilité de la pub sont communs dans la mesure où la pub est devenue largement une pub digitale aujourd'hui. Et donc les problèmes qui se posent, les défis qui se posent sont des défis qui sont partagés dans le monde entier. Les sensibilités néanmoins des sociétés ne sont pas les mêmes. Et quand on parle par exemple des débats sur la diversité ou les stéréotypes dans la publicité, on a des sensibilités qui sont plus développées en certains pays, comme par exemple en France, en Angleterre et pays nordiques, que dans d'autres régions du monde. Mais on voit dans l'ensemble un mouvement qui va dans ce sens-là, d'une uniformisation des attentes au niveau mondial.
Et il y a une rébellion des consommateurs. Je citais les adblocks, et c'est vrai que allez, un tiers des Français, parlons des Français qui utilisent un adblock, ils sont chaque mois de plus en plus nombreux. Le consommateur, l'internaute se rebelle quelque part aussi, il en a assez?
Absolument. Donc en fait, on voit aujourd'hui une croissance assez forte de la pénétration des adblocks. Alors en France, effectivement, on est à plus de 30%, dans beaucoup de pays européens, en Amérique du Nord également, mais on voit aussi une croissance des adblocks très importante importante en Asie, ainsi qu'en Amérique latine. Et quand on demande aux gens pourquoi est-ce que vous prenez un adblock, en fait, ce qu'ils vous répondent, c'est les formats de la publicité digitale sont parfois trop intrusifs. Il y a une inquiétude par rapport à la protection de données privées. Donc les personnes ne comprennent pas exactement quelles données sont collectées et à quel but. Et enfin, il y a aussi la perception que la publicité pourrait, le cas échéant, être, les exposer à des malwares au niveau digital. Donc, c'est les trois grands moteurs qui font qu'aujourd'hui, le adblock est en telle croissance. Et si vous voulez, c'est d'une certaine façon un défi qui se pose à nous en tant qu'industrie. Pour qu'on se regarde dans le miroir et qu'on voit quels sont les excès aujourd'hui auxquels il faut qu'on réponde.
Ah bon, on va voir ça. Claire Dorland-Clauzel, directrice des marques de Michelin, vous sentez une sorte de résistance vis-à-vis des annonces, des pubs et contre les marques que vous représentez,
oui,
vous, Michelin.
Ce que l'on ressent, c'est qu'en fait, on attend des entreprises qu'elles soient de plus en plus responsables. Mmh. Et bien évidemment, tout ceci a des conséquences sur la manière dont les entreprises communiquent et notamment sur la publicité. Donc nous, on est très sensibles à ça parce qu'on est dans un secteur. C'est un produit qui est le pneu. Évidemment, est un produit sécuritaire. Faut pas raconter d'histoire. En plus, on a une histoire effectivement de confiance avec le public, et donc on veut surtout pas briser cette confiance. Et effectivement, les nouvelles techniques de publicité, elles sont à la fois plus précises, donc elles permettent de cibler.
Cibler, voilà.
Donc on n'embête pas les gens avec des messages généraux, mais en revanche, c'est extrêmement intrusif. Et donc il est absolument fondamental, à mon sens, que si les entreprises ne veulent pas perdre la confiance de leurs clients et de leur public, elles soient complètement responsables et que donc elles envoient des messages qui sont à la fois utiles et responsables. Quand vous regardez le classement des marques, et Dieu merci, Michelin est très élevé dans ce classement, mondialement et en France, et bien vous voyez que les entreprises qui sont respectées, ce sont les entreprises effectivement qui sont responsables et qui sont utiles. Et derrière le mot utile, il y a la notion de produit ou de service qui me convient et qui m'apporte ce que je recherche. Et non pas l'intrusion de quelque chose de général dont je n'ai pas besoin. Je pense aussi que les jeunes sont très sensibles à ça, encore plus que les autres.
Une pression des jeunes. Oui. Hervé Brossard, justement, ça vous force, vous, les acteurs, oui, les professionnels de publicité, à vous réinventer quelque
oui,
part, enfin, on est en 2018.
Il y a une prise de conscience qui est réelle. Quand vous dites la pub change-t-elle de visage en 2018, c'est pas un lifting, hein. c'est une prise de conscience.
Ouais.
Avec des changements de mentalité. Ouais. Et vous verrez que
c'est plus qu'un lifting, quoi.
C'est beaucoup plus qu'un lifting.
C'est en profondeur.
Profondeur. On l'a vu de manière internationale. On l'a vu à notre grande messe annuelle qui est à Cannes au mois de juin, où des grandes instances américaines, des grandes instances anglaises et françaises, effectivement, étaient plutôt en tête de liste, je dirais, pour dire il faut que ça change. On peut pas continuer comme ça. Mais ce que vous disiez est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a changé aussi, c'est le rapport au consommateur. On dit on veut retrouver la confiance, mais on a établi, grâce aux nouveaux médias, une sorte de dialogue. Il faut accepter ce dialogue. C'est aussi accepter la critique quand le dialogue est avéré. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans ce qu'on appelait un top-down. On envoyait un message et quelqu'un le recevait, il l'aimait ou il l'aimait pas. On est dans un échange, et dans l'échange, il y a la critique. Et ça, il faut en prendre conscience.
Virginie Sassoon du Clémy, un début de prise de conscience, comme le disait votre voisin Hervé Brossard. Est-ce que les taux se resserrent? On est allé trop loin, justement?
Alors, le centre, le CLEMI, c'est le centre pour l'éducation aux médias pour lequel je travaille. Et tous les ans, on organise un concours qui s'appelle Zéro Cliché, où les élèves de l'école primaire jusqu'au lycée travaillent sur la déconstruction des stéréotypes sexistes dans la publicité. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une exigence croissante de la part de ces jeunes citoyens en devenir, et aussi une nécessité pour nous d'éduquer les regards. C'est-à-dire que quand vous arrivez aussi avec une génération qui ne cautionne plus certains types de représentations et qui les sanctionne à travers des pratiques de bad buzz sur les réseaux sociaux, ça oblige aussi les marques à avancer et à bouger.
Ouais, il y a vraiment une pression. C'est quoi les stéréotypes les plus fréquents à vos yeux? Je disais, le CSA, qui a visionné 2000 spots en 2017, sur un an, s'est rendu compte que les femmes apparaissent, je cite le CSA, les sages du CSA, et d'ailleurs qui seront associés à votre opération demain, Jean-Luc Chétrit, les femmes apparaissent majoritairement comme des consommatrices, des objets de désir, voire des potiches. Voilà, les hommes prédominent quand il s'agit de jeux d'argent, de voitures, de banques d'assurance, puis les femmes, quand il s'agit de l'entretien du corps, l'habillement, la parfumerie, les produits médicaux, les femmes sont en majorité.
Oui, et ça crée, en fait, la difficulté, c'est que ça crée une distorsion avec les pratiques sociales, parce qu'en réalité, sur l'automobile, par exemple, les femmes, elles choisissent leur voiture, et pourtant, on présente majoritairement des hommes pour vendre des voitures. Il y a un chiffre aussi qui est frappant dans cette étude du CSA, c'est que la figure de l'expert, elle est incarnée à 82% c'est par
dingue,
des hommes.
C'est
82%.
C'est vrai que l'expert en blouse blanche qu'on voit pour dire qu'il faut se brosser les dents ou qu'il faut acheter une voiture ou... j'en sais rien, c'est toujours un homme.
Voilà. Et ça a un impact réel sur l'estime de soi-même, sur l'orientation scolaire que nous, avec lesquels les élèves ont à faire chaque jour. Donc il y a une responsabilité aussi des annonceurs, évidemment, à évoluer.
Le monde, finalement, de la pub, quelque part, tel que celui qu'on a décrit au travers d'hommes experts, de femmes soucieuses de son corps, d'hommes très sportifs, très musclés, etc., c'est plus la vision du monde de 2018. Et quelque part, la jeune génération, elle vous pousse, les marques, les annonceurs, justement, à faire différemment. Claire Dorland-Clauzel, Michelin.
Oui, moi, je voudrais rebondir sur ce que dit madame. C'est très vrai. Par exemple, on a remarqué, nous, que les acheteurs de pneus sont maintenant, aujourd'hui, en majorité des femmes.
Ah.
Et c'est vrai qu'on ne s'adressait pas tellement aux femmes quand on faisait de la publicité sur les pneus. Et on est en train de changer, effectivement, la manière dont on fait de la publicité ou de la communication sur les pneus, en étant dans quelque chose de plus émotionnel, et puis surtout en étant beaucoup plus abordable, c'est-à-dire d'expliquer les choses et d'expliquer ce qui intéresse, en l'occurrence, l'acheteuse. Donc c'est intéressant de voir ça.
Oui, Jean-Luc Chétrit, Stéphane Lorque, il y a encore beaucoup matière à critiquer. Certains clichés ont la vie dure ou ça s'améliore? Est-ce que les femmes qui font le ménage, la femme mère de famille, la femme allumeuse pour vendre une perceuse, je ne sais quoi, la femme vénale, la femme soumise au diktat de la minceur, c'est encore vraiment présent en 2018
ou... Alors, ce qui est du domaine de l'excès, etc., a été corrigé par un certain nombre de règles, c'est ce que nous sommes donnés. J'aurais rappelé le rôle de l'ARP, qui est l'autorité de régulation de la publicité, qui fait en sorte justement qu'on analyse non pas 2000, mais toute la production publicitaire, un jury de déontologie qui d'ailleurs bloque ou condamne certaines campagnes qui sont excessives de ce point de vue. Donc je pense que la profession avait commencé à prendre le sujet, mais comme Claire Dorland l'évoquait...
Pas suffisamment encore.
Il faut aller plus loin, parce que les attentes sont plus importantes que celles qu'on a pu connaître. C'est pas un sujet simple, parce qu'on est sur un sujet de... Un stéréotype, c'est un raccourci.
Ah oui.
La publicité, c'est un raccourci.
Eh ben, on en a besoin.
Pour raconter une histoire.
Donc on doit forcer sur le trait, parfois.
Donc on force sur le trait.
Et comment on va faire?
Et comment on arrive à garder l'équilibre? Alors d'où ce que nous proposons, qui est de dire de regarder... Les annonceurs qui s'engagent dans notre programme vont regarder la récurrence du stéréotype, c'est-à-dire sur une année de production publicitaire. Est-ce qu'on a retrouvé toujours le fait qu'une femme se retrouve à un moment dans une campagne publicitaire pour des produits dans la cuisine, se retrouve dans la cuisine, c'est normal, c'est pas un problème. Si c'est systématiquement une femme qu'on trouve,
voilà, c'est ça.
C'est un problème. Donc c'est la récurrence du stéréotype qui, me semble-t-il, est désormais le sujet. C'est nouveau, c'était pas le genre de questions qu'on pouvait se poser, il faut se les poser, tant mieux, parce qu'en plus, et si je vous me permettez juste un point, les Américains qui ont fait des études sur justement la représentation de la diversité dans la publicité montrent que ça marche mieux, c'est-à-dire que c'est non seulement une obligation, mais c'est utile parce que ça développe justement plus de proximité avec son public et ça vend mieux, donc autant le faire.
Oui, ça vend mieux maintenant, mais autrefois on pensait en effet que mettre une femme pour vendre de la lessive ou vendre des petits pots pour les bébés, on s'était posé la question, on s'était dit tiens, ça va être plus facile, c'est la cible toute trouvée. On avait fait des études là-dessus finalement ou pas, Stéphane Lorque?
Écoutez, c'est un modèle assez ancien, probablement qu'il reposait sur un certain nombre d'expériences en tout cas, qui faisait qu'un certain nombre d'annonceurs avaient tendance à utiliser ces modèles-là. Mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, comme le dit Jean-Luc, c'est que c'est un modèle qui est en train de s'essouffler. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant dans ce débat-là, c'est qu'on est en train de sortir d'un débat de responsabilité sociétale de l'entreprise.
Oui.
Vers en fait un débat autour de qu'est-ce qui est réellement bon pour l'entreprise à plus long terme. Il y a un vrai intérêt à la fois sociétal à faire évoluer la façon dont on montre les diversités, les différents sexes dans la publicité, et en même temps il y a un intérêt de l'entreprise et de la marque. Donc Jean-Luc faisait référence à une étude qui a été faite aux États-Unis qui démontre qu'en fait des publicités dénuées de stéréotypes génère un retour sur investissement de 25% plus élevé que la moyenne. Et donc vous avez aujourd'hui une initiative qui est prise au niveau des États-Unis et qu'on est en train de développer au niveau international, qui consiste à mesurer à travers un index le niveau de stéréotype par publicité afin d'encourager l'industrie à changer de braquet et à le faire sur base de données qui démontrent que c'est la bonne décision à prendre d'un point de vue marketing à long terme. Et je pense que c'est là qu'on va pouvoir vraiment générer un vrai mouvement dans l'industrie, parce que je pense qu'il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui qui est forte.
Ouais, vous nous dites donc les marques qui n'utilisent pas de stéréotypes vont vendre 25% de plus que quand on utilisait des stéréotypes.
En fait, c'est sur base d'un index qui lui est construit sur quatre questions qui est posée à des consommateurs. Et effectivement, les publicités qui sont perçues comme étant non stéréotypées fonctionnent mieux.
Hervé Brossard, Omnicom Media Group.
Oui, il y a une autre variable, c'est la diminution du poids de la télévision. Aujourd'hui, les investissements publicitaires en télévision sont inférieurs, c'est nouveau depuis 2017, à l'investissement dans le digital. Et ça ne va faire que croître et embellir. Alors, je souhaite longue vie, bien entendu, à nos amis de la télévision. Mais le mode d'expression, le mode de communication dont je parlais tout à l'heure, est rejoint par l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis derrière toutes ces marques qui s'expriment en matière digitale.
Et sur le digital, qui trouve-t-on, justement, eh bien, tous les jeunes dont parlait Virginie Sassoon?
Absolument. Les jeunes, mais également, on voit tous les annonceurs qui attendent un retour, non seulement sur leur investissement en termes de vente, mais surtout en termes d'appréciation, parce qu'on peut flinguer, pardon pour l'expression, une marque qui existe depuis des années sur les réseaux sociaux. On disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, la société avait changé, donc on s'adapte à ces changements.
On est sociétal, voilà.
Mais aujourd'hui, disait Jean-Luc, il y a des moyens, il y a des armes, et les réseaux sociaux sont là. L'adblock en est un. Mais les réseaux sociaux pour dire « je ne suis pas d'accord, je critique » ou « engager le dialogue », qui est la meilleure preuve de fidélité qu'on puisse avoir avec les annonceurs, ça existe également. Donc en fait, tous les changements que l'on a aujourd'hui dans notre métier, je vous le disais, ne sont pas des changements de surface, et c'est pas 2018.
C'est de la profondeur.
On est parti pour une dizaine d'années.
Virginie Sassoon.
Je trouve que c'est plutôt réjouissant de savoir que la diversité et l'égalité est un levier de performance. Parce que c'est un sujet en fait très grave et on le voit aujourd'hui dans l'actualité, parce que les stéréotypes sexistes, ils renforcent les rapports de domination et c'est pas anodin. Et je trouve que c'est très positif de savoir que finalement les annonceurs se responsabilisent et qu'il y a aussi une régulation à l'image de ce qui a été fait en Angleterre, qui est vraiment exemplaire. Et ils ont vraiment fait une boîte à outils très très fournie pour repérer très concrètement les stéréotypes, ce qui avait un sondage du laboratoire de l'égalité qui montrait que la plupart des Français étaient révoltés contre les stéréotypes sexistes dans la publicité, mais en fait quand on les confrontait à des stéréotypes, ils ne savaient pas les reconnaître, parce que c'est une éducation au regard, ça s'apprend, et les professionnels doivent être aussi sensibilisés et formés.
Oui, et des stéréotypes au-delà de hommes-femmes, c'est aussi en fonction des couleurs de peau, et puis aussi gays ou hétéro. Oui, et ensuite Claire d'Orlande-Claudel.
Je ne voudrais pas mettre les Anglais trop en tête comme ça, parce que d'abord il faut savoir que l'autorité anglaise elle a 10 ans de retard sur l'autorité de régulation de la publicité française, parce qu'elle a fait une étude alors que nous il y a un barème qui sort tous les ans depuis 10 ans et qui calcule les choses. Donc pour une fois qu'on en avance sur eux, rappelons-le. Deuxièmement, il y a un débat en Angleterre, il y a un débat qui a été lancé par le Times of London en disant mais vous êtes en train de toucher à la liberté d'expression, et ça ils adorent ça les Anglais. Et en plus de ça, si vous voulez, eux n'ont pas de secteur interdit. Donc là où les stéréotypes sont le plus exprimés, ça reste quand même dans les alcools, toutes ces choses-là qui sont tolérées à la télévision et dans les médias anglais mais ne sont pas ici.
Non.
Donc j'ai l'impression que les Anglais, ils sont en train de rééquilibrer un petit peu les choses. Et je voudrais moi rendre hommage au travail de la RPP qui a commencé bien avant. Ça sera long, mais on est tous avec elle et avec eux.
Juste pour rebondir sur ce que disait Hervé, il n'y a pas un risque quand même qu'on tombe dans un excès contraire, qu'on fasse du puritanisme ou pas, Claire d'Orlande-Claudel?
Non, je ne crois pas. Je crois que d'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est une évolution, ce n'est pas une révolution, c'est commencé depuis quelques années, cette évolution et cette attention qu'on porte à la communication et à la publicité, qu'elle soit digitale ou télévisuelle. Je crois qu'on doit, avec l'évolution des effectivement des moyens et du digital, y faire encore plus attention.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus intrusif. Et ça, et notamment les jeunes ne l'accepteront pas. Hein. Ils sont, il y a, je crois, madame, une éducation quand même qui arrive, Dieu merci. Et finalement, on doit refléter l'évolution de la société. C'est très intéressant ce que vous avez dit.
Stéphane
les publicités qui ne sont pas... qui sont dénués de stéréotypes, marchent mieux. On a vu ça dans le commerce. On s'est rendu compte, quand vous regardez les forces commerciales, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Pour vendre un produit à quelqu'un qui est du même sexe que soi, très souvent, on a besoin d'avoir en face de soi quelqu'un qui vous comprend. Et il y a plein d'entreprises qui ont découvert que d'avoir des équipes commerciales mixtes, ça marchait beaucoup mieux. J'allais dire, c'est quand même, heureusement qu'en 2018, on s'est rendu compte qu'il y avait 50%, pour ne parler que des femmes et pas des autres types de stéréotypes, 50% de l'humanité, ce sont des femmes. Bah oui, c'est logique que ça... Vous voyez Voilà, donc tout ça est en train d'avancer, d'évoluer, et c'est tant mieux. Donc moi, je crois qu'on va dans le bon sens.
Stéphane Lorque, à la tête de la WFA.
Donc moi, je voudrais abonder dans le sens de ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est que je pense que la France s'est saisie de ce dossier avant... de ce débat avant d'autres pays. Alors même si les choses ne sont pas parfaites, je pense qu'il y a quand même une sensibilisation en France grâce au travail de l'ARPE entre autres qui a été faite. Et en fait, on s'appuie beaucoup sur ce qui a été déjà réalisé en France pour lui donner une échelle internationale. Parce qu'en fait, ici, ce débat-là, il est bien sûr à l'échelle internationale. Et donc, on collabore donc l'industrie pour la première fois de son histoire. A créé une coalition en partenariat avec l'Agence des Nations Unies pour la protection des femmes, UN Women, pour un programme qui s'appelle On Stereotype, qui a été lancé à Cannes l'année passée, en juin, et qui réunit tous les grands acteurs de l'interprofession, y compris Facebook, Google, les grands annonceurs, les grands médias, les grandes sociétés de technologie et les grandes agences, afin de combattre les stéréotypes. Mais c'est pas une grande déclaration, c'est pas un manifeste, c'est en fait de façon très concrète. Et donc l'ensemble des signataires s'engage à se faire valider, à faire valider leur performance de façon indépendante pour pouvoir mesurer les progrès qu'on fait. Et donc là, on est dans un registre qui est la mobilisation des annonceurs, des agences et des médias ainsi que des réseaux sociaux pour faire évoluer la façon la publicité aujourd'hui est perçue et fonctionne. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays et dans beaucoup de cas, on est quand même un peu en retard sur la société. Et je pense qu'il y a un consensus qui est en train de se créer à ce niveau-là. Et donc je pense que c'est assez encourageant. Je veux aussi dire qu'il y a certaines marques qui non seulement se sont engagées à ne plus faire des publicités stéréotypées, mais qui ont carrément repris ce combat à leur compte. Quand vous regardez par exemple Unilever avec la marque Dove, vous regardez Procter & Gamble avec Like a Girl, c'est des marques qui font passer un message très important dans la société.
Racontez-nous.
Donc en fait c'est ce qu'on appelle en anglais marketing with purpose. C'est de la publicité qui a un sens. Donc toute la publicité, toute la démarche de la marque, c'est justement de faire avancer le combat de l'égalité des chances, de la non-discrimination.
Au travers d'un produit.
Au travers d'un produit. Ouais. Et donc ça a un impact considérable sur les consommateurs, sur la société d'une façon générale. Et c'est une contribution qui est très importante, justement pour faire passer ces messages très importants.
Et les grandes marques qui sont signataires de la charte que vous allez présenter, Jean-Luc Chétry, il y a déjà pour l'instant une petite trentaine de grandes marques. Bon, il y a Michelin, il y a Renault, il y a Orange, il y a L'Oréal, il y a Coca, Unilever, BNP. Alors, je ne vais pas faire toute la liste, justement. Beaucoup. Sur quoi elles s'engagent, justement? Qu'est-ce qui fait que, cette fois, eh bien, ça marcherait quelque part? C'est le fait que justement les marques vont s'auto-réguler, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va leur taper sur les doigts, style l'ARP, le CSA ou je ne sais qui.
Vous savez, la meilleure des auto-régulations, c'est celle qui est transparente. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès, on peut vérifier si la marque qui s'engage tient ses engagements. Je crois qu'aujourd'hui, dans un monde justement où la communication doit être transparente, le programme que nous avons lancé, que c'est 28 premières grandes entreprises ont décidé de signer, on l'espère beaucoup plus largement encore, parce que c'est un mouvement qu'on veut initier.
Ben là, il y aura une pression. Hein, Twitter va relayer les entreprises signataires, justement. Ouais, donc celles qui n'y vont pas, ben, seront peut-être montrées
qu'elles
du doigt.
Non, elles ne seront pas montrées du doigt. Bon, on les encourage à venir, que les premières montrent. Et pour répondre spécifiquement à votre question, c'est très important. Il ne s'agit pas de faire un engagement en l'air. Il s'agit de se donner les moyens de le tenir. Quand un des 15 engagements, c'est de regarder, d'analyser la récurrence d'un stéréotype et de corriger. Et donc, on a créé des grilles de mesures qui seront accessibles, ouvertes au public pour qu'elles puissent voir régulièrement comment ces marques progressent. Parce que c'est une démarche de progrès. Je voudrais pas, en effet...
Il n'y a pas que la question des stéréotypes. Hein,
non,
il y a la question de l'intrusivité, en effet.
Le sous-titrage de la communication. Et donc, il faut aussi parler à des publics...
Twitter, brut maintenant, sous-titre. On voit aussi les extraits de chaîne info aussi maintenant qui sous-titrent systématiquement leurs petits extraits sur Twitter. Ben c'est vrai, pourquoi on l'a jamais fait jusqu'à présent?
Ben écoutez, vous savez, c'est 8% de la population française qui est sourd et malentendant. 8% de la population française. Ça n'est que 8% de la production publicitaire en télévision qui est sous-titrée. Donc on voit là qu'il y a un écart, on n'a pas suffisamment pris en compte tous les publics. Là aussi, heureusement, je pense que maintenant, la prise de conscience est là. Et donc, les marques qui vont signer ce programme s'engagent à sous-titrer toute leur communication publicitaire.
Juste un mot, les affaires de harcèlement de cet automne vous ont poussé à agir un petit peu plus. L'engagement du président de la République contre toute forme de harcèlement, de sexisme, également, ça a été l'effet déclencheur en disant
le travail,
il faut qu'on y aille aussi.
Alors, pardon, mais le travail qui avait été engagé depuis plus d'un an sur ce programme. Maintenant, évidemment, il va s'inscrire dans la cause du quinquennat et on a fait du fil rouge, du stéréotype, le fil rouge de l'année 2018. Mais vous avez raison de l'indiquer. Ce que nous souhaitons faire, ce que les marques souhaitent faire à travers ces engagements, c'est de couvrir assez largement tous les sujets sur lesquels il faut recréer les conditions de la confiance entre les marques et les publics.
Bon, la pub va-t-elle changer de visage en 2018 au-delà du lifting, hein? Non, ça va être un changement en profondeur, hein, ce que nous disait tout à l'heure Hervé Brossard à la tête d'Omnicom Media Group. On va retrouver tous les autres décodeurs dans un instant. Restez avec nous sur BFM Business, à la télé et à la radio. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, la pub, elle va changer de visage en 2018. On verra dans un instant quand même les autres défis. On reviendra quand même sur ce règlement européen sur la protection des données personnelles qui va concerner un nombre hallucinant de secteurs. Hein. Il va falloir quand même que les entreprises se préparent. Sont-elles prêtes justement à l'échéance du mois de mai? On reviendra aussi sur cette pub davantage vocale au travers des assistants personnels. Il y a un gros marché également à saisir. Juste quand même, au travers de cette charte, ces engagements que les annonceurs vont prendre demain, faire une pub plus responsable, moins intrusive, plus accessible à tous, plus acceptable. Hervé Brossard,
un mot pour dire à nos amis annonceurs qui ne sont pas tout seuls, parce qu'ils prennent cet engagement demain, ils sont soutenus par les syndicats professionnels des agences médias et les syndicats professionnels des agences de communication, la ACC. Donc c'est un travail qui est fait en commun et on ne peut pas dissocier la demande des annonceurs et le travail de leurs conseils.
Justement, ça va conduire peut-être à revisiter votre métier,
Vous disiez tout à l'heure, ça change de visage, mais ça change de forme aussi. Parce que quand on va parler, si on le fait tout à l'heure, des assistants personnels ou des choses comme ça, on rentre. Alors là, c'est vraiment intrusif. On rentre chez les gens, on rentre dans les datas, on s'adresse directement aux gens. Il y aura un type de communication. D'ailleurs, ça peut avoir une incidence sur l'évolution des agences, les départements créatifs. Comment vont-ils travailler? Parce que ça va être une manière de travailler très, très différente. Parce que on va avoir plus de communication, plus adapté, multi-surface, multi-usage, multi-lieu. Ça change énormément de choses en matière non seulement d'organisation, mais de mentalité. Peut-être qu'il y a une nouvelle génération de créatifs qui va naître.
Bon, en attendant, en tout cas, faut le faire. Si on ne s'engage pas, vous allez perdre la confiance. Vous, les marques, Michelin, Claire d'Orlan, Clauzel, justement, c'est une question centrale.
Ah bah oui, c'est une question centrale et pour nous, il y a eu aucun doute. On l'a déjà fait à l'intérieur de l'entreprise par une charte de communication responsable qui est notre propre charte. Et bien sûr, dès que ce programme a été lancé, j'ai dit qu'on y adhérait et donc on va se remettre exactement dans les mêmes propos. On le disait avec nos propres mots, on le faisait, j'allais dire, à la Michelin. Mais les équipes sont formées, on fait très attention de ne pas tomber dans les stéréotypes. On travaille évidemment main dans la main avec nos agences. Et mais il faut le regarder tout le temps, parce que vous savez, les réflexes, quand on est un groupe comme Michelin, on est un groupe mondial, donc on s'adresse au monde entier. Mais évidemment, on a des réflexes, par exemple, pour ne pas toujours parler des femmes, de faire des publicités avec des gens qui sont blancs, et avec des stéréotypes. Bon voilà, il faut sans arrêt être attentif.
On va attendre
et former les équipes.
Une pub de qualité. Stéphane Lorque, vous à la tête de la Fédération mondiale des annonceurs, les 60 plus gros marchés mondiaux de la pub, c'est vous. Enfin.
Écoutez, moi je suis plutôt optimiste en fait. Je pense que la pub va changer de visage cette année et je pense qu'elle va changer dans un bon sens. Alors on a parlé des stéréotypes. On peut parler de l'impact de la nouvelle directive sur la protection des données privées. Je pense que ça va être un séisme pour l'industrie. Ouais. Mais je pense que ça va répondre quand même à une attente de fond des gens de comprendre ce qui se passe avec leurs données et de pouvoir eux-mêmes consentir ou pas au partage.
Les cookies.
On va voir des changements au niveau des formats de publicité que vous allez voir dans le digital. Et ça encore une fois, c'est une première. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de formats qui sont tout simplement pas accepté par les utilisateurs. Et si on n'en tient pas compte, les gens adoptent le bloqueur de pub. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui me rendent moins optimiste et qui je pense montrent que l'industrie est à l'écoute.
Ouais, Virginie Sassoon, responsable du CLEMI, le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, justement.
Oui. Ben moi, j'ai envie de partager cet optimisme du côté de l'éducation parce que nous, notre rôle, c'est de former le développement de l'esprit critique des jeunes et c'est ce qu'on fait à travers différents dispositifs comme le concours Zéro Cliché dont je vous parlais à l'instant. Et je crois qu'on a tout intérêt à faire confiance à la génération qui arrive pour exercer son esprit critique et sanctionner un moment où ils ne se reconnaissent plus dans les représentations qui leur sont proposées, où il y a trop de distorsions avec les pratiques sociales.
Alors, ce RGPD, ce règlement européen sur la protection des données personnelles, qui va entrer en application le 25 mai pour permettre à l'Europe de s'adapter aux nouvelles réalités du numérique. Ça va conduire l'internaute quelque part à valider un certain nombre de critères d'acceptabilité, de protection de ses données personnelles. Il acceptera ou non l'usage des cookies, au lieu de faire finalement au cas par cas, comme on le fait en ce moment, ça sera du tout ou rien. Comment vous allez travailler, tiens, Jean-Luc Chétry, qu'est-ce qui va changer dans votre métier? En quoi c'est un séisme, comme le disait Stéphane Lorque, justement?
Bon, c'est un séisme parce que c'est évidemment un changement profond de méthode de collecte du consentement. Il faut pouvoir le mettre en œuvre. Il faut le mettre en œuvre de manière intelligente. C'est-à-dire qu'évidemment, l'objectif, c'est de redonner le contrôle sur sa donnée personnelle à l'utilisateur et, par là même, recréer les conditions de cette confiance qu'on évoquait initialement. Mais faut pas oublier que le cookie publicitaire, donc le fait d'accepter de recevoir de la publicité, c'est la source du financement des contenus et des médias.
Ah, comment on fait alors ?
Donc il ne peut pas y avoir de contenu gratuit sans l'acceptation
sans traçabilité, sans
de la publicité. Donc il faut, dans le cadre de ce que
ça veut dire
nous
quoi
allons
fini
faire,
la collecte des data, fini le ciblage.
Non, c'est une collecte de data qui doit être acceptée et qui doit avoir sa justification. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit spécifique. Si je donne mon consentement en sachant pourquoi je donne mon consentement, ce qu'on va faire de ma donnée, à quoi elle me sert, le fait de donner mon consentement à ce qu'on collecte la donnée.
Et qu'est-ce
me
que
donne
je fais
accès,
en échange
Exactement,
voilà,
me aussi. Donne accès à des contenus de qualité et me permet de les consulter gratuitement et tout en préservant ma donnée personnelle, alors je donnerai mon consentement. Ouais. Donc il faut que ça soit relativement simple, il faut que ça soit explicite et c'est tout ce travail qu'on est en train de mettre en œuvre pour qu'au 1er juin, ça soit plutôt une bonne nouvelle et pas un drame pour l'ensemble du secteur.
Claire Dorland-Clauzel, directrice de la marque chez Michelin. Tout le monde est prêt? J'ai l'impression qu'il y a plein de boîtes qui ne sont pas prêtes.
En tout cas, on sent que ça arrive, parce que la France a quand même été plutôt un petit peu en avance aussi sur ces sujets-là, et assez sensible. Et moi, je reviens, j'introduirai bien un mot, le mot éthique. Hein, je pense que on attend effectivement une responsabilité des entreprises, et puisque la data, maintenant, c'est le pétrole du 21e siècle, puisque c'est utilisé à ce niveau-là, puisque c'est apporteur de richesses, il faut introduire de l'éthique, effectivement, dans l'utilisation de la data.
Stéphane Lorque.
Oui, faut y aller.
Ouais, je voudrais rebondir sur cette comparaison en disant qu'en fait, je pense que on est en 1973, en fait, là, maintenant. On est juste avant le choc pétrolier. Et le pétrole à $5 va passer à $30.
Exactement.
Donc ça veut dire, c'est pas la fin de la data. C'est tout simplement que la data va être beaucoup plus difficile à recevoir de la part des personnes qui vont prendre une décision au cas par cas et de façon raisonnée. Et donc vous allez avoir des marques qui vont devoir créer un échange de valeur. En anglais, ils appellent ça value exchange. C'est-à-dire que si vous souhaitez que le consommateur partage ses données, vous devez, en tant que marque, avoir une argumentation qui l'encourage à le faire. Ouais. Et donc, tout le monde ne sera pas égal dans cet échange.
Ça me fait penser à un petit jeu qui est un jeu sérieux pour les jeunes, pour les sensibiliser à cette question-là, qui s'appelle Data Dealer. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Non.
Et donc, plus on récupère de la data, et plus on s'enrichit. Et c'est un dispositif éducatif assez sympa aussi pour faire prendre conscience en fait que cette data, elle a une valeur et que ça renvoie les enjeux de l'éducation aux médias. Hein. De toute façon, l'identité numérique, les traces qu'on laisse et comment on fait avec ça des citoyens éclairés.
Hervé.
Au niveau des contenus, ça demandera donc aux agences de respecter trois choses. D'abord, que les messages concernent les gens, puisqu'on a les datas, on les connaît. La deuxième, c'est que ça soit utile, que ça me rende service.
Voilà, c'est ça.
Et,
voilà.
Et le troisième, on revient au sujet de votre émission, c'est que ça me respecte. C'est-à-dire que puisqu'on me connaît, pas de stéréotypes me concernant.
Alors, on est en 1973. Bon, on reprend l'exemple de Stéphane Lorquet qui faisait le parallèle donc avec le pétrole de 73 à un an du choc pétrolier avec une data qui va coûter peut-être plus cher, enfin en tout cas qui va prendre une autre dimension. On revient en 2018. Oui, juste, vous l'avez abordé tout à l'heure, l'une des grosses nouveautés. Il va falloir compter aussi sur une pub vocale, intelligente, cette fois, qui nous connaît, qui rentre chez nous. La pub vocale, elle va débarquer sur les enceintes connectées, sur Echo d'Amazon, sur Google Home. C'est Simon Tenenbaum qui nous en parlait l'autre jour après les informations données par NBC, selon lesquelles Amazon a entamé des discussions avec plusieurs grands annonceurs pour faire de la pub via son système d'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette conquête? On va rappeler, quelque part, finalement. On va être là, on va dire, tiens, chez moi, je veux du shampoing, je veux une plaquette de beurre. Et quelque part, Google Home va dire, tiens, je vais choisir du beurre de telle marque, du shampoing de telle marque,
le premier, là,
du dentifrice de telle marque.
En fait, la technologie va 10 fois plus vite que nous. On est une profession de conseil. Avant, on avait 1 an, 2 ans d'avance sur la société. Aujourd'hui, quand on a 15 minutes d'avance, je balaye devant ma porte, on est déjà très content. Plus sérieusement, la technologie, on l'a vu encore au CES de Las Vegas
la semaine dernière, ouais.
C'est-à-dire, va extrêmement vite. Et en face de ça, il faut ce que Jean-Luc expliquait tout à l'heure. Il faut cette rigueur de notre part pour dire, on se jette pas dans la technologie comme ça.
Alors, comment vous préparez? En quoi ça va changer le métier?
Moi, je trouve ça très important parce que j'écoutais Amazon parler de son assistant vocal qui s'appelle Alexa en disant, on est en train de dealer avec Procter, avec Clorox, des choses comme ça. Et la différence entre suggérer une marque et inciter, pousser une marque, ça c'est intrusif.
Jean-Luc Chétrit, comment les professionnels, comment les annonceurs se préparent justement à aller investir, à rentrer finalement chez les gens dans ces boîtes Google Home ou Echo ou je ne sais qui quoi.
Ils découvrent au fur et à mesure que ces solutions sont développées. Je crois qu'il faut faire preuve, on l'a dit, de beaucoup de pragmatisme sur ces sujets. Pour avoir été avec les équipes de Facebook qui travaillent sur l'intelligence artificielle, ils sont encore très modestes sur leur capacité à réellement mettre en œuvre ces solutions à grande échelle, de façon très détaillée. Donc l'intelligence artificielle, ça monte, ces solutions commencent à se créer, on va apprendre. Je crois que
faut aller vite, les premiers qui intégreront ces assistants personnels seront les marques qui vont réussir, non?
Alors, de ce point de vue, je ne crois pas que ça soit le premier forcément, parce que vous savez, il y a eu beaucoup de solutions personnelles qui ont été développées, qui ensuite ont fait, qui ont été des échecs. Donc, je crois que c'est plus de trouver une façon pour les marques d'être présentes dans cette relation qui se crée au domicile. C'est quand même très particulier que de rentrer au cœur du domicile avec de la donnée très personnelle, très privée. Faisons attention et regardons en effet comment la marque trouve intelligemment sa place.
Et Stéphane Lorque, juste d'un mot, puisqu'on a la chance de vous avoir, vous à la tête de la Fédération mondiale des annonceurs, comment se porte le marché mondial de la pub? Quid des grands équilibres? D'un mot, s'il vous plaît.
En fait, 2018 se présente plutôt bien. C'est-à-dire qu'on voit au niveau mondial une croissance de l'ordre de 4%. Donc une légère reprise au niveau mondial. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un rééquilibrage des grands pôles, des grandes régions dans le monde. Et je pense que c'est la bonne nouvelle quand même pour la France et pour l'Europe. C'est qu'on est en Europe, on table sur une croissance entre 2,8 et 3% de croissance. La France reprend également en termes de le marché. Et on voit un léger tassement, avec des croissances encore fortes, mais un léger tassement en Asie.
En Asie.
Donc on voit quand même une...
Qu'est-ce qui se passe là-bas ?
Mais en fait, on voit un rééquilibrage des perspectives de croissance. Hein, la publicité, la dépense publicitaire, c'est un bon baromètre des prévisions économiques. Donc la reprise économique qui est en train de se dessiner en Europe, elle se reflète aussi dans la dépense publicitaire. Et donc on voit quand même un nouveau niveau de confiance et donc de croissance des dépenses publicitaires en Europe. Et je pense que c'est important. Hein.
Bon, allez, toute dernière question. Jean-Luc Chétrit à la tête de l'UDA. Comment on vend les produits Lactalis après l'affaire du lait pour bébé et les explications pas toujours claires du PDG de Lactalis? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors bon, écoutez, c'est vivre des crises comme celle que vit Lactalis, c'est évidemment un exercice extrêmement difficile. C'est un sujet de produit, hein. On n'est pas sur un sujet de publicité là en l'occurrence. Hein. On a parlé de beaucoup de publicité aujourd'hui. Là, on est sur une situation produit, de production, de difficultés rencontrées par des familles. Donc c'est évidemment. Alors après, c'est un sujet de communication.
Oui,
c'est comment, dans un monde tel qu'on l'a décrit, qui est un monde de plus en plus connecté, où on attend des entreprises de plus en plus de transparence, arriver à répondre à cette attente-là. Donc c'est un exercice extrêmement difficile. Je crois que actuellement justement. Je dirais le groupe Lactalis a commencé à travers les prises de parole récentes à apporter des réponses. C'est un travail qui se fait désormais en temps réel. Et ça, c'est un des grands changements de ce qu'on évoquait dans ce sujet des grandes tendances de la publicité. C'est que transparence, immédiateté et prendre des engagements, je pense que c'est probablement dans ces voies-là que les marques aujourd'hui arrivent à trouver, à recréer ces conditions de la confiance qu'on évoquait.
Merci beaucoup. Voilà la com, la pub aussi au cœur d'Hebdocom, c'est le week-end avec Aurélie Planec sur BFM Business, l'autre star de la matinée sur BFM Business. Merci à tous. Merci Stéphane Lorque. Merci d'être venu nous voir à la tête de la WFA, la Fédération Mondiale des Annonceurs, hein, qui couvre eh bien les 60 plus gros marchés mondiaux de la pub, des États-Unis et la Corée du Sud, en passant par l'Europe, le Japon. Claire Dorland-Clauzel, la directrice des marques de Michelin. Jean-Luc Chétrit, le directeur général de l'Union des Annonceurs, l'UDA. Virginie Sassoon, responsable du laboratoire du Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information. Et Pierre V. Brossard, président d'Omnicom Media Group. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite, bien sûr.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.